Bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui parle de ces héros silencieux qui travaillent dans l'ombre. Le mercredi, en semaine impaire, à partir de 13h, sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais alors, qui sont-ils? Eh bien, il s'agit de ces personnes qui ont des métiers peu connus du grand public, mais dont l'activité est cruciale et indispensable à notre vie de tous les jours. Ces personnes travaillent souvent en coulisses, et leur contribution est pour la plupart méconnue ou sous-estimée. Derrière chaque grande marque, chaque enseigne, personnalité, entreprise ou association, se cachent de nombreux individus que l'on appelle les petites mains, sans qui le travail, la qualité ou encore l'image de ces entités seraient beaucoup moins reconnues. Alors prenons un instant pour imaginer notre quotidien sans ces métiers essentiels et rencontrons toutes les deux semaines un de ces mystérieux individus au micro de Radio G. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir le métier de directeur de patrimoine au sein du Centre National de la Danse Contemporaine d'Angers, avec notre invité qui nous a partagé son quotidien, mais surtout son parcours dans la musique et la production de spectacles, avant de devenir ce gardien de souvenirs. Je vous invite à retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G, radio-g.fr. Aujourd'hui, je vous invite à prendre part à un voyage dans le monde des lettres. Nous lisons tous des livres, des articles, des commentaires. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui relisait ou corrigeait ces écrits avant leur publication? Ou même d'ailleurs, qui les écrit? Est-ce bien la personne que l'on pense? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de rencontrer notre invitée, Annie Boucherie, qui manie quotidiennement les mots dans l'ombre en tant que relectrice, correctrice et prête-plume littéraire. Bonjour Annie, comment vas-tu?
Bonjour Fabien.
Bienvenue Annie, nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure et nous allons aborder plusieurs sujets, à savoir ton parcours d'études et professionnel, tes différentes expériences, tes voyages, mais aussi et surtout les métiers que tu exerces aujourd'hui à l'ombre de tous. Puis on parlera d'un sujet, notamment l'IA, dans ce domaine littéraire, et tout cela enrobé, illustré, accompagné par des morceaux de musique qui te représentent au quotidien. Alors Annie, pour commencer, peux-tu te présenter à nous et nous dire d'où tu viens?
Alors, je suis Annie Boucherie, je suis depuis assez peu de temps relectrice, correctrice et prête-plume. J'habite actuellement à Nantes et depuis longtemps, depuis mes études, mais sinon je suis née à Châteaubriand. Et voilà, je pense que j'en dirai un peu plus.
D'accord, tu donnes un peu de mystère et c'est très bien. Donc tu as toujours vécu dans les pays de la Loire.
Ouais.
Annie, tu es avec nous aujourd'hui car tu exerces des métiers de l'ombre qui m'intriguent beaucoup. L'un d'entre eux est relectrice, correctrice, c'est bien cela?
Oui,
mais
ça.
Aussi, tu es prête-plume depuis peu de temps.
Oui.
C'est-à-dire que tu écris à la place de ceux qui souhaitent rédiger quelque chose, on est d'accord?
Oui, c'est ça.
Très bien. Oui. Donc dans un premier temps, pourrais-tu nous donner une définition ou nous décrire de manière générale en quoi consiste le métier de relectrice-correctrice?
Alors, le métier de relectrice-correctrice, en tout cas pour, si je dois donner une définition brève, c'est vraiment un professionnel qui se trouve presque tout au bout de la chaîne éditoriale et qui est chargé de réviser les textes, les contenus textuels, quels qu'ils soient, avant leur impression ou leur diffusion. Donc, c'est un œil neuf et expert. Je dis neuf parce que ce n'est pas l'auteur hein, qui s'auto-corrige, c'est vraiment quelqu'un qui vient après. Et expert, puisqu'il est très aiguisé, cet œil, pour pouvoir percevoir, vérifier les petites erreurs.
Les petites coquilles.
Oui, voilà, on parle souvent de coquilles, mais en effet, c'est ça.
D'accord. Et ce métier, comment t'es venue cette idée de faire ce travail?
Ça m'est venu à un moment dans ma carrière, entre guillemets, professionnelle, où j'étais un petit peu fatiguée d'être tout le temps en interaction avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, j'ai recherché à ce moment-là un métier dans lequel je pourrais vraiment me concentrer sur l'écrit, puisque c'est quand même ma passion première. J'ai toujours, dans mes activités jusque-là, travaillé autour de l'écrit tout le temps, mais avec beaucoup de monde autour. Et là, j'avais tout simplement envie de me retrouver dans une situation plus calme, plus reposée, et à traquer vraiment, aller vraiment au bout des choses. J'aime beaucoup la précision et ça m'a parlé. Donc j'ai découvert ce métier, enfin je savais qu'il existait, Mais je me suis formée après un congé maladie, en fait, hein, pour tout dire.
D'accord.
Quand je me suis remise de mon mal, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et là, je me suis dit, voilà, je vais me former. Malgré mes expériences dans l'enseignement, je ne sais pas si on pourra peut-être en parler tout à l'heure.
Oui,
mais,
si, totalement.
Ouais, donc, j'étais longtemps prof de français, hein, pendant 20 ans quasiment. Mm-hmm. Mais malgré cela, il faut se former. Il faut se former, c'est pas parce qu'on est, entre guillemets, hein, bon en français, qu'on peut être un bon correcteur.
D'accord. Mm. Et ça fait combien de temps que tu es relectrice-correctrice?
Donc, alors, j'ai commencé début 2023 et je suis indépendante depuis janvier 2024.
Mm, c'est vraiment, tout récent.
C'est tout récent.
Mm. Une toute jeune auto-entrepreneuse.
C'est ça, tout à fait.
Et ce travail dans le domaine des lettres, les mots, ça vient d'où ça, cette passion pour les lettres?
Pour les lettres. Alors, depuis toujours, je dirais, parce que j'ai 47 ans, donc on va dire, allez, 40 ans. oui, ça vient depuis la découverte de la lecture, quoi.
Tu lisais beaucoup, enfant?
Oui, comme beaucoup d'enfants, j'aimais lire. J'aimais aussi l'objet, livre.
Ah, c'est peut-être quelque chose que tes parents t'ont inculqué?
C'est vrai, oui. J'ai eu cette chance chez mes parents. On avait carrément une pièce qui s'appelait la bibliothèque. Et je passais beaucoup de temps dans cette bibliothèque. Alors, je précise, je viens d'un milieu tout à fait modeste, rural, agricole. Et mes parents ont vraiment eu à cœur de nous transmettre la culture. Hein, et donc, j'ai passé beaucoup de temps, effectivement...
à lire dans cette bibliothèque.
Oui, oui, tout à fait.
Et si tu avais un livre, un peu Madeleine de Proust
Oh, j'en ai plusieurs.
Alors
là, comme forcément tu me replonges dans cette bibliothèque, j'ai presque envie, alors ça peut être une boutade, mais j'ai presque envie de te citer Oui, oui, et la girafe rose. Oui,
oh là,
tout un programme.
Je n'ai pas lu celui-là.
Non, mais en fait, c'est pour dire qu'à l'âge de 7 ans, quand on commence à comprendre ce code, hein, voilà, c'est quand même assez magique, toutes ces lettres qui forment des mots et des histoires, très clairement, ça a été voilà, un premier coup de cœur, quoi. Et puis après, effectivement, l'autre Madeleine de Proust, alors je pense à L'écume des jours de Boris Vian, que beaucoup de gens connaissent peut-être. C'est un roman qui m'a vraiment marquée parce que dans la première page que j'ai lu, relu avant de plonger dans ce roman, c'est assez magique parce que l'auteur, Boris Vian, se permet de faire pousser la moustache de Colin, donc le personnage principal. C'est le personnage principal avec Chloé, je me souviens. Donc le personnage se regarde dans le miroir le matin et voit sa moustache pousser. Il trouve que c'est pas très joli, donc il la rase. Donc vraiment, c'est comme si l'auteur, en fait, avait ce don de nous emmener dans un imaginaire. Et je me souviens avoir lu et relu cette première page en me disant, mais c'est génial, un auteur, en fait, est libre.
Il fait ce qu'il veut.
Il fait ce qu'il veut.
C'est là que naît l'amour des livres et des mots. Mmh. Ensuite, tu grandis un petit peu. Et
oui.
Là, il faut faire des études.
Oui. Donc, j'ai fait des études de lettres modernes.
Eh ben, tiens donc.
Eh ben, voilà. Après, un bac littéraire, évidemment. Oui, donc finalement, un parcours tout tracé, finalement.
T'es resté dans ce domaine. Quelles sont les études que tu as faites pour arriver à ton premier métier?
Alors, à mon premier métier, donc, qui est effectivement l'enseignement du français. Alors, même si j'ai pas passé le CAPES, mais j'ai fait des études de lettres modernes, parcours théâtre, à Nantes. Et ensuite, j'ai fait une petite incursion rapide dans la culture et après, je me suis formée à nouveau et j'ai passé une maîtrise de français langue étrangère. Il s'agit d'apprendre à enseigner la langue française à un public étranger.
Ah d'accord.
Et ouais. D'ailleurs, pour me mettre dans la peau d'un grand débutant en langue française, pas que moi bien sûr, mais tous les étudiants, on devait choisir une langue qui nous était totalement inconnue et donc j'avais dû apprendre les bases du vietnamien, etc.
C'est vrai qu'on y pense pas.
C'était vraiment pour qu'on se mette dans la peau des personnes qui doivent apprendre français et qui sont, par exemple, n'ont pas le même alphabet, tout simplement.
Annie, nous allons faire une première petite pause musicale. Comme à chaque fois dans l'émission, j'aime écouter et proposer les musiques qui rythment et accompagnent nos invités dans leur quotidien. Alors dis-moi Annie, toi, quelle musique aimes-tu écouter le matin, par exemple?
Alors déjà, comme je travaille à mon domicile, comme beaucoup de relecteurs, correcteurs, en gros, ce qui se passe, c'est que souvent, j'écoute quand même la radio pour m'informer des nouvelles du monde et m'en désespérer parfois. Et puis souvent, après, une fois que je suis devant mon ordinateur, je travaille plus dans le silence. Mais si vraiment, pour me mettre en forme, je pensais à une musique, là, ce qui me vient, ça serait... une musique avec beaucoup d'énergie différente. C'est, je pense, au morceau Walking with a Ghost de Cadé Bostani.
Très bien, très bon choix. Eh bien, je propose que l'on écoute tout de suite Walking with a Ghost de Cadé Bostani.
I'm just walking with a ghost and it's walking by my side. My soul is dancing on my cheek. A don't know where the exit is. Every day is still the same, and I don't know what to do. I'm carrying my tears in a plastic bag, and it's the only thing I got from you.
I have short hair, and I'm faced with a few complications. So if you care, try to analyze that situation. You know, man, as the leaves fall on the ground, my soul is gone. Round and round and round. So please, do it well. Just break the spell. Why don't you do it right? I don't want another fight. I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood, and I'm venturing deeply in the wood. You know, man, birds are my only food, and it puts me in that strange mood. I am giving you my heart on a silver plate. Why couldn't we be just mates? Oh no, never come back to me. Oh no, never come back to me.
Les métiers de l'ombre sur Radio G 101.5 FM. Et aujourd'hui, je suis avec Annie Boucherie, relectrice, correctrice, mais aussi prête-plume. Annie, ça va toujours ?
Oui, très bien, merci.
Eh bien Annie, dans ton parcours professionnel, tu deviens formatrice en français, mais aussi en culture générale. Peux-tu nous expliquer comment devient-on formatrice en culture générale ? Il faut avoir joué plusieurs heures aux Trivial Poursuite ou aux Questions pour un champion ?
Alors, ça peut aider, c'est vrai, mais en fait, il faut surtout avoir une veille documentaire très poussée et être très créatif pour réussir à faire des contenus à proposer aux étudiants.
Et c'est ça, par quoi on commence quand on veut
apprendre
la culture générale ?
En fait, moi, je proposais aux étudiants, j'étais obligée de fabriquer, entre guillemets, tout un parcours, et on brassait énormément de sujets. Alors là, pour le coup, on avait beaucoup, beaucoup de camembert de toutes les couleurs, quoi, vraiment.
Ah oui.
Vraiment. Alors, c'était un contexte un peu spécifique, hein. C'était notamment à la préparation au concours d'orthophonie. Et donc, les pauvres élèves devaient non seulement faire des dissertations très documentées, mais aussi, réussir des QCM pour ces fameux concours. Moi, en tant que prof de culture générale, donc j'étudiais les fameux QCM qui sortaient d'une année sur l'autre, et puis j'essayais de faire un programme par rapport à ça. Puis, en tant que prof, il faut forcément en savoir beaucoup plus que ce qu'on va transmettre. Énormément. Et puis, alors, il y a des sujets sur lesquels j'apprenais presque en même temps. Je travaillais pour pouvoir être à l'aise, un minimum, et puis surtout créer des cours pédagogiques, en fait.
Bien sûr que ça soit ludique, j'imagine.
Alors, ouais, c'était très ludique. Et du coup, parfois, je pouvais ressembler un peu à Julien Lepers, ouais, dans ces cas-là, c'est vrai.
Tu vois, au final.
Oui, non, mais c'est vrai.
Suite à cela, tu décides de voyager autour du monde.
Alors, suite à cela, oui, en tout cas, j'ai fait une coupure, parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé après mes études, mais avec mon compagnon, on s'est offert le luxe d'une année sabbatique. Et donc, nous avons fait un tour du monde, et je vous encourage à le faire. Si. Mais alors, nous, c'était pas dans un bateau, hein, je pense à ceux qui font le Vendée Globe. Non, voilà, c'était en gros, pendant un an, on est allé d'un continent à un autre, c'est vrai. Et donc nous avons rencontré beaucoup de cultures, beaucoup de gens.
Toi au final t'enseignes aussi.
Oui, c'est très enrichissant. Ouais.
Donc ça devait être aussi une très belle expérience.
Très très chouette. Et puis ça ouvre. Alors bien sûr ça paraît bateau de dire ça, mais ça ouvre vraiment les horizons et ça permet aussi d'aimer les différences, de les comprendre, de les apprécier. Et puis ça permet aussi de relativiser, de s'interroger sur sa propre culture.
J'allais le dire. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé ce voyage pour la suite?
Oui. Alors professionnellement, je dirais, c'est un tout en fait. Mais individuellement, personnellement, énormément en tout cas, parce que tout simplement, depuis ce voyage, je me sens un peu moins naïve sur plein de choses. C'est tout bête, mais
c'est vrai, il faut oser sortir de chez soi.
Oui, c'est ça, un peu. Ouais.
Et suite à ça, tu continues ensuite ton parcours en tant que formatrice, oui. Et un jour, te vient l'idée de devenir relectrice, correctrice, ouais. Indépendante. Comment s'est passé ce parcours, ce choix, jusqu'à te dire j'arrête d'être formatrice et je deviens relectrice, correctrice?
Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à la suite d'un arrêt brutal dans le travail salarié que je faisais avant, qui a fait que je me suis vraiment réinterrogée. J'ai pris le temps pendant la convalescence. Alors pendant la convalescence, j'étais pas en capacité d'entreprendre quoi que ce soit, ni formation, ni quoi que ce soit, mais je me suis interrogée vraiment sur ce qui me plaisait vraiment. Et comme je suis quelqu'un qu'on qualifie souvent autour de moi, on me dit ouais, Annie, t'es dynamique et tout ça, enthousiaste, bon, très bien, mais cette énergie-là, bizarrement, j'avais envie de la canaliser dans quelque chose de très bordé. Ça me rassurait, ça me rassure aujourd'hui de travailler sur un texte, un livre, ou plusieurs, parce que j'ai plusieurs missions en même temps parfois, mais disons que c'est vraiment, je m'organise comme je veux. Enfin, j'avais vraiment envie de devenir indépendante à ce moment-là. Mmh. Et encore, toujours, en tout cas pour l'instant, ça me plaît de pouvoir m'organiser comme je le souhaite, et puis aussi de ne pas non plus devoir répondre à des injonctions contradictoires qui parfois vraiment...
Prennent ton énergie.
Oui, c'est ça, voilà. Donc finalement l'énergie, les rencontres avec les gens, elles existent, j'en ai moins au quotidien. Et puis dans le métier donc prête-plume que j'envisage de faire un peu plus
régulièrement
et sérieusement, je serai là totalement en interaction avec les personnes, puisque il faut d'abord s'entretenir longuement avec les personnes, un peu comme le fait un journaliste ou comme tu le fais, Fabien, ici, avant de mettre tout ça par écrit. Mmh. Et ça m'intéresse beaucoup parce que oui, j'aime l'interaction, j'aime échanger. Et dans mon travail de relectrice-correctrice, je suis amenée parfois à commenter, enfin concrètement sur le logiciel, je vais insérer un commentaire pour poser une question, demander à l'auteur ce qu'il a vraiment voulu dire. Quand je lui propose des reformulations, parce que le correcteur ne fait pas que corriger l'orthographe et puis des erreurs d'espace ou de majuscules, des choses comme ça, il propose aussi des reformulations. Et vraiment, alors ça c'est très agréable d'entrer comme ça en communication. On peut aussi travailler au téléphone. Hein. Mm-hmm. Donc on s'adapte et on entre là encore une fois en dialogue avec les auteurs. L'idée est vraiment de servir leur texte, de réussir à respecter leur style, au niveau de la ponctuation, à respecter leur souffle, et de ne corriger que ce qui est vraiment fautif, entre guillemets. Et quand on trouve que ça manque de clarté, ou quand on a repéré une incohérence, eh bien on va s'assurer auprès de l'auteur qu'on ne fait pas fausse route non plus, et on propose parfois plusieurs reformulations, il choisit. Donc il y a quand même un dialogue.
Oui, de sorte à ne pas dénaturer son œuvre en soi.
Ah oui, tout à fait.
Annie, je te propose une seconde petite pause musicale avec un morceau que tu apprécies tout particulièrement. Peux-tu nous dire lequel c'est?
Alors, c'est un morceau de Zao de Sagazan, donc que tout le monde connaît, je pense. Et là, j'ai choisi, parce que tu m'as demandé gentiment de penser un titre, et donc j'ai choisi Au Travers. C'est une chanson moins connue.
Oui,
elle a rajouté, parce qu'en fait, elle a fait son album, mais elle a rajouté là de nouveaux titres.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'ai pensé à celui-ci qui me plaît bien.
Eh bien, c'est parfait. Voilà. Très bien. Écoutons tout de suite Au Travers de Zao de Sagazan.
Au travers de l'humain, on comprend des choses controversant. Au travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi. De travers, je prendrai la pose. Moi je les aime, mes travers. Donnez-les vôtres, j'en ferai quelque chose. Musique. de chacun s'installent des choses. Traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Au travers, aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face, fini le déni, fini les manières, bla 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 bla, et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Controverse tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose, en comprenant tes travers viendra la métamorphose.
De retour dans les métiers de l'ombre avec notre invitée Annie Bouchery, vous nous écoutez en direct sur Radio G 101.5 FM. Annie, ça va toujours, toujours en compagnie de cette relectrice correctrice. Bien, raconte-nous une journée de ton quotidien. Si tu as les commandes des clients, comment tu les traites.
Ok.
Une journée classique, on va dire.
Une journée classique, donc quand je suis bien occupée. Alors, souvent, le correcteur, la correctrice travaille à son propre domicile. Mais moi, par exemple, bien sûr, comme tout le monde, je vais regarder mes mails, établir des devis, repointer un texte ou répondre à des commentaires, justement, d'un auteur, etc. Bon, très bien. Bien sûr, on regarde ses mails 4 fois par jour, comme tout le monde, au moins. Et puis, sinon, je peux planifier mon travail. Dans la correction, en fait, quand on reçoit une mission, un texte, on va tout simplement voir avec les outils statistiques de tous les logiciels de traitement de texte combien de caractères il y a. Et puis là, pour ma dernière grosse mission que j'ai accomplie auprès d'une maison d'édition, j'avais un texte important qui fait donc là il vient de paraître. D'ailleurs cette semaine, il fait 420 pages le livre. Hein, donc mais ça faisait à peu près, ça faisait je crois 750 000 signes. Et c'est comme ça que je peux établir mon devis. On travaille 8000 signes à l'heure. En gros, ce sont des normes un petit peu. Hein,
et donc,
pour la préparation de copie.
Exactement sur ce texte-là. Ta mission exacte, c'est donc le relire entièrement.
Alors oui, donc là, je vais prendre cet exemple. Quand j'avais cette mission, donc j'ai calculé, j'avais 12 jours travaillé plein pour ce bouquin. Et donc, comme c'était des articles, il s'agissait d'un colloque. Et donc, il y avait 18 contributions, donc des articles d'une vingtaine de pages chacun, écrits par 18 auteurs différents. Et donc, c'était assez pratique pour moi, parce que ça me permettait vraiment de couper. C'est-à-dire, c'est comme des chapitres. Et comme chaque article était quand même assez autonome, j'avais pas besoin de prendre connaissance de l'ensemble. J'avais pris connaissance, bien sûr, en feuilletant, enfin avec une lecture en diagonale, regardant le sommaire, etc. Mais sinon, après, je travaillais article après article, ce qui était très pratique pour m'organiser. Et puis alors, en fait, dans ce qu'on appelle la préparation de copie, c'est la première correction. Parce qu'après, ça nous revient et ça s'appelle la correction sur épreuve. Mais la préparation de copie, on corrige le plus de choses possible, tout ce qui ne va pas. On insère les fameux commentaires quand on n'est pas sûr ou quand on veut un éclaircissement. On repère, alors bien sûr, tout ce qui concerne la maîtrise de la langue, donc l'orthographe, la sémantique, le vocabulaire, la syntaxe. La syntaxe, c'est l'ordre des mots dans une phrase, hein, donc ça touche à la grammaire, à la ponctuation. Mais on regarde aussi tout ce qui concerne la typographie. Alors pas la forme des lettres, parce que ça c'est le maquettiste qui s'en occupe, mais les espaces en trop, en moins, les capitales ou les bas de casse, donc ça c'est les minuscules, les Est-ce que, enfin, plein de choses, hein, les italiques, est-ce qu'on écrit les chiffres en toutes lettres ou pas, etc., etc. Donc, on regarde tout ça. Et puis aussi, on doit repérer les éventuelles incohérences. C'est-à-dire, c'est comme des problèmes de raccord au cinéma, vous voyez. Mmh. Tiens, mais il a plus le même pull. Bon, bah, c'est un peu pareil. Et donc, sur des écrits longs, il faut, le correcteur, il est aussi là pour ça. Oui. Il n'est pas là que pour la forme au sens
oui,
strict.
Je vois.
Voilà, il y a tous ces aspects. Et donc, pour terminer sur ma journée, ben voilà, en gros, c'est quand même, on reste assez souvent longuement sur un même écrit. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça.
Eh bien, Annie, j'aimerais qu'on parle d'une chose qui nous entoure de plus en plus au quotidien, à savoir l'IA, oui, l'intelligence artificielle. En fait, elle peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et quand, en fait, je décidais de t'inviter, c'est vrai que je me suis posé tout de suite la question pour ton métier, relectrice, correctrice. En effet, l'IA, on propose, on écrit un texte, on donne à ChatGPT notre texte et il nous le corrige. Toi, l'IA, tu la vois comment?
Alors, pour nos métiers, enfin, pas que le mien, énormément de métiers, oui, mais en revanche, pour le quotidien, je pense à des personnes qui, par exemple, doivent rédiger des mails professionnels et des personnes qui savent qu'elles peuvent rencontrer des difficultés d'orthographe notamment. Bah, je trouve ça très bien qu'elles puissent demander ce travail-là à une intelligence artificielle. Ça les rassure et puis elles vont avoir vraiment voilà un contenu un peu plus propre entre guillemets,
ouais,
un petit peu nettoyé quoi. Mais après l'intelligence artificielle, en tout cas comme ChatGPT, etc. Enfin toutes ces intelligences un peu rédactionnelles, ça va pas servir aux maisons d'édition notamment. Ou alors vraiment, je pense au traitement de texte. Alors c'est pas l'intelligence artificielle, mais vous voyez quand vous êtes sur un traitement de texte lambda et puis qui vous souligne ce qui ne va pas. Bon, très bien, ça peut, même nous en tant que correcteurs, ça peut nous permettre, pourquoi pas, de ne pas passer à côté d'une erreur, d'une coquille, etc. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas aller rechercher plus avec cet outil-là dans mon métier. Et ce n'est pas ce qu'attendent non plus mes commanditaires. Parce qu'en fait, les maisons d'édition, elles savent bien que l'IA ne pourra pas faire mieux. Donc, si jamais je donnais, si, j'ai déjà fait des tests hein, pour vraiment par curiosité, puis même dans notre formation, on a aussi évoqué ça. C'est normal, faut pas faire l'autruche et savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est pas un problème. Mais moi, quand j'ai fait des tests, toutes les fois que j'ai fait des tests, ben, j'ai bien vu qu'il fallait passer derrière de toute façon. Donc, c'est une perte de temps.
D'accord.
Clairement, c'est pas. En tout cas, pour ces aspects-là, c'est une perte de temps quand on veut atteindre une qualité, une pertinence surtout.
Oui, je comprends.
Ouais, ouais.
Et donc pour toi, en soi, l'humain dispose encore de cette force que l'IA ne pourra pas remplacer.
Oui, oui. Sur ce métier-là, comme sur beaucoup d'autres. Quant au métier de prête-plume, alors là, pour le coup, je suis résolument contre l'utilisation de l'IA pour tout ce qui est créatif. Si je veux faire une maquette d'un bouquin, je préfère le confier à un vrai illustrateur ou un designer, mais pas à l'IA. Moi, je préfère dans ces cas-là faire une couverture monochrome, très clairement. Dans mon travail de prête-plume, moi, je me destine plutôt à faire des biographies, donc les gens se racontent et pour un cercle intime ou plus large, vont voir publier un livre, un objet livre. Quand je suis amenée à penser à la maquette et à la couverture, clairement, je vais faire au plus simple. Je pense que l'IA qui se veut créative, c'est une erreur en fait. Enfin, je trouve ça dommage de ne pas faire confiance à l'intelligence humaine. Je suis assez étonnée parfois de l'engouement sur l'IA. Je trouve que c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais je trouve qu'on se tire une balle dans le pied, quoi.
Eh bien, en tout cas, Annie, les domaines des lettres font partie de ta vie au quotidien. C'est un métier passion pour toi, même encore aujourd'hui. Es-tu fière de ton parcours?
Ah oui, oui, je suis fière de mon parcours, fière aussi d'avoir d'assumer quelque part ces nouvelles envies aussi.
Annie, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec toi. J'espère que nos auditeurs auront un regard différent sur ces métiers de l'ombre que sont relectrice, correctrice et prête-plume. Bonne continuation à toi et à très bientôt. En attendant, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un tout autre métier de l'ombre qui agit en coulisses, surtout à la période des fêtes qui arrive. Très bonne journée à vous et à dans 2 semaines. Bye !